Bienvenue au podcast Tupica, le podcast pour les geeks de sport. Où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport? Cette semaine, c'est encore une fois un genre de mélange entre Coin du Geek et Upica podcast traditionnel. Charles Castonguet et moi, on s'assoit avec Félix-Antoine Lapointe, coach Lapointe que j'ai reçu la semaine passée. Et, pardon, on analyse une étude. Je vais pas recommencer, OK? J'ai roté dans mon micro. Je vais pas recommencer. Ça continue. On analyse une étude que Charles a sortie qui comparait quatre groupes d'athlètes de haut niveau et il leur faisait faire sur 8 semaines deux types d'entraînement différents. En fait, 4 variations de types d'entraînement. C'était le premier groupe faisait, il va vous l'expliquer, là, mais je fais un court résumé. Le premier groupe faisait 8 semaines au complet en pyramidal. Le deuxième, 8 semaines au complet en polarisé. Troisième groupe faisait 4 semaines polarisé, 4 semaines pyramidales. Et le quatrième groupe faisait 4 semaines pyramidales, 4 semaines 4 semaines pyramidales, 4 semaines polarisées. OK, j'ai eu un petit problème de cerveau là, à ce moment-là. fait que bref, on explique c'est quoi tout ça, en fait. C'est des méthodes d'entraînement. Puis on explique lesquels ont eu les meilleurs effets. Puis on en discute avec Félix-Antoine pour voir qu'est-ce que lui, dans sa pratique de coaching, fait, qu'est-ce que lui a observé. Et ça fait un podcast absolument incroyable. J'adore ces conversations-là. Écrivez-moi si vous aimez ça. Écrivez dans les commentaires si vous aimez ce type de conversation-là, vraiment niche. Merci à la gang de chez Musette de nous avoir reçus. Encore une fois, Musette, c'est un bike shop, café, buvette sur Grande Allée qui tiennent les produits Upica. Fait que si vous êtes à Québec, ça ne vous tente pas de payer le shipping ou d'acheter 2 sacs ou quoi que ce soit, ça ne vous tente pas de livrer, allez chez Musette, ils ont mon stock. Fait que sans plus attendre, bon podcast. Yes, ça roule.
Oui, ça va bien.
Prise 2, ça va bien.
Prise 2.
On est, dans le fond, tout après avoir enregistré notre podcast, parce qu'on était les deux seuls, cette fois-là avec Charles pour un coin du geek, où est-ce que Charles, tu nous as sorti une étude, puis on va juste discuter, en fait, de cette étude-là. Je vais juste te laisser expliquer ça.
Ouais, fait que Coin du Geek 2.0 où on vient analyser une étude puis en parler avec des spécialistes. Aujourd'hui, c'est Félix, notre spécialiste, très bon coach, très expérimenté dans le domaine de l'athlétisme. Et aujourd'hui, on a une étude sur l'athlétisme. En fait, c'est une étude de Philippas et collaborateurs de 2021 que moi, je trouvais très intéressante quand j'ai vu passer parce qu'il y a matière à beaucoup de discussions là-dessus sur les philosophies d'entraînement, que ce soit en athlétisme, en ski de fond, en natation ou peu importe. Et le but de l'étude, en fait, c'était quand même assez simple. C'était de prendre 60 coureurs assez expérimentés. Fait qu'on parle de 60 hommes avec des VO2 max de plus de 60 pour chacun des participants, avec une moyenne à 67, ce qui est relativement quand même assez élevé. Aussi avec une fréquence d'entraînement qui était de 5 séances au moins par semaine, une expérience de plus de 2 ans et qui avait compétitionné régulièrement et qui avait absence de maladies connues et de limitations au niveau blessures. Donc, c'est quand même un groupe de bons coureurs qu'on a étudié. Ce n'est pas, mettons, une population qui commence à courir, ce qui aurait pu vraiment modifier les résultats, selon moi aussi. Et là, c'est ça, on en parlait juste avant de commencer, là, le titre ou le design de l'étude fait saigner un petit peu des oreilles. Là. C'est une étude randomisée, contrôlée à 4 bras parallèles, ce qui veut dire. Ça fait saigner des oreilles. Ça veut dire qu'on a pris les 60, on les a divisés dans 4 groupes, 4 bras, 4 groupes différents et qu'on a fait suivre 4 protocoles différents, mais qui vont un peu dans le même sens de la course à pied, donc 4 types d'entraînement différents. Donc 15 coureurs par groupe qui font 4 protocoles différents. Et au début, mais dans le fond, on a divisé ça en plusieurs zones d'entraînement parce que le but, c'était d'étudier certains types d'entraînement en zone versus d'autres. Là, on parle de polarisé, pyramidal, ça revient souvent dans la littérature. Comment on a défini ces pyramidal et polarisé? Eh bien, on les a définis à l'aide de 3 zones d'entraînement, ce que moi, je déteste dans la vie, mais que je sais que toi, tu apprécies.
Moi, je suis un fan de ça parce que ça rend ça plus simple. Zone 1, zone 2, zone 3. That's it.
Mais c'est ça, si
maintenant. En fait, c'est zone 1 dans ma tête, là, puis là, corrige-moi si je me trompe. Moi, c'est zone 1, tout ce qui est avant le seuil aérobique. Exactement. Zone 2, entre les deux. Zone 3, dépasser le seuil anaérobique.
C'est exactement comme ça qu'on les a définis. Sauf qu'eux, ils apportaient une petite nuance qu'ils l'ont fait avec les seuils ventilatoires. C'est un peu différent des seuils anaérobiques qu'on prend avec le lactate. Donc, c'est fait avec les échanges de O2, CO2. Mais tu sais, c'est quand même assez relativement pareil. Là. Ça revient à quelques fréquences près souvent quand on définit les zones. Fait qu'on va parler sur nos trois zones. Fait que si vous êtes habitué à cinq zones, sachez que la zone 1 qu'on va parler, c'est zone 1, zone 2 quand on parle de cinq zones. La zone 2, c'est zone 3, zone 4. Et la zone 3, ça devient la zone 5. Fait que si vous êtes à 5 zones, mettez-vous ça dans la tête. On peut aussi dire facile, tempo, intense. Ça pourrait régler le problème aussi. Donc on a défini les zones à partir de ces paramètres-là avec des tests qu'on a fait au préalable chez les coureurs, justement. Et avant, on leur a demandé de faire un 6 semaines de jog avec quelques petites zones 3 de temps en temps, mais surtout focusser sur de la zone 1 ou du easy jog. Il n'y a pas le droit de faire de muscu, pas le droit de faire du cross-training pendant 6 semaines. Donc, tout le monde avait standardisé avant même le protocole 6 semaines d'entraînement normal. Et là, l'intervention, très intéressante. On a pris 16 semaines d'entraînement et on a divisé notre groupe en 4. Et on a fait un peu deux blocs de 8 semaines, donc 16 semaines divisées en deux blocs. Le premier groupe faisait une intervention qu'on appelait pyramidale. Donc pyramidale, si on prend justement leur définition ou leur répartition d'entraînement, pyramidale étant à peu près 80% de easy, ou zone 1 pour eux, qu'est-ce qu'ils disaient, un 75 à 80% easy, 15 à 20% de tempo ou zone 2, comme eux ils l'appelaient, et un 5% de vraiment très intense. Et là, on a fait ça pendant les 16 semaines. Donc, on a fait un bloc de 8 semaines et on a répété l'autre bloc de 8 semaines exactement de la même façon sur les 16 semaines. Polarisé, on le définissait, le deuxième groupe qui est polarisé, on le définissait par 75-80% de assez facile, 15 à 20% de très intense, donc zone 3 pour eux, mais vers le VO2 max, et seulement 5% entre les deux, là, la zone 2 ou le tempo, selon eux, qu'est-ce qu'ils catégorisaient. Donc la différence entre les deux premiers groupes, c'est vraiment la zone la zone 1 reste la même, le facile reste le même, le milieu va changer soit 15 ou 20%, pyramidal 15, polarisé 5, et l'inverse pour le très intense. Donc polarisé qui est vraiment plus intense comme entraînement, pyramidal qui est plus basé sur ta capacité à répéter des efforts entre tes deux seuils, donc le seuil aérobie et le seuil anaérobie. Le troisième groupe, il y avait une progression, lui. Donc il y avait deux blocs de 8 semaines. Le premier bloc de 8 semaines était pyramidal, donc plus de tempo, vers le deuxième bloc de 8 semaines qui était polarisé. Et le quatrième groupe qui était polarisé commençait avec la zone 1, mais beaucoup plus intense aussi, 15% à haute intensité au moins, vers le tempo pour 8 semaines. Et là, on faisait passer un test, 3 tests après 8 semaines, 3 tests après 16 semaines. Et là, je peux vous donner un petit peu les entraînements à quoi ils ressemblaient, mais vas-y.
Félix, toi, ton programme, tu dirais que c'est quoi dans ces deux méthodes-là?
C'est sûr que j'aime pas catégoriser mon programme dans une case précise puis pas en sortir. Mais moi, j'ai toujours cru qu'il faut développer un éventail de qualités pour avoir du succès. Donc, c'est-à-dire, à l'année, faire toujours du polarisé ou toujours du pyramidal. J'ai certaines nuances. Donc, je serais probablement plus dans un des deux derniers modèles que Charles a parlé. C'est-à-dire, pendant 8 semaines, avoir un modèle type, puis en venir à évoluer vers un autre modèle. Donc, ce serait probablement plus quelque chose comme ça. Puis, règle générale, bien qu'il y ait des nuances en fonction du calendrier de compétition, j'aime qu'on fasse plus d'efforts de type tempo, des intervalles contrôlés en début de saison. Puis, plus on approche des objectifs de compétition, plus on va faire des séances très intenses à VO2 max où on va aller chercher des efforts plus intenses. Encore faut-il trouver un dosage là-dedans, mais pas toujours répéter le même modèle à l'année, développer un éventail de qualités, ça cadre avec ma philosophie.
Je comprends. Donc, ce serait davantage du polarisé vers pyramidal vers polarisé. C'est ça?
Pyramidal vers polarisé, selon l'appellation qu'on utilise dans l'étude.
Parfait.
Si on vient dans une nuance, par exemple, pour moi, ça fait beaucoup de sens pour un gars, un athlète de 5 000, 10 000, Puis j'ai pas vraiment la réponse à ça parce que j'entraîne pas vraiment. Ben, j'entraîne des gens sur marathon, mais pas au niveau que tu entraînes des gens au marathon ou en demi. Est-ce que mettons, si on pense à la spécificité de la. De la filière utilisée en marathon, est-ce qu'on l'inverserait dans ce sens-là ou on commencerait plus intense au début puis on irait plus vers le spécifique marathon après ou bien on garderait quand même la même ou on ferait trois blocs différents? Comment tu vois ça, toi?
Ça pourrait être une approche d'inverser dans le sens où moi, ce que j'essaie d'éviter, c'est développer d'être bon seulement dans un aspect. Puis développer des compétences dans des habiletés complémentaires va te permettre d'être meilleur dans les compétences où tu veux être bon.
Ouais.
Donc, développer ton aérobie, ton tempo, ton threshold. Éventuellement, quand tu vas faire de l'entraînement spécifique, polarisé, intense, bien, tu vas avoir des outils de plus pour te spécialiser dans ce sur quoi tu veux être à ton meilleur. Donc, ça pourrait être une façon de le voir au marathon, à savoir, en période de préparation plus générale, on veut développer des qualités qui font plus référence à l'anaérobie, mm-hmm. puis progressivement en venir à se spécialiser sur nos efforts spécifiques marathon. Puis, il y a tout l'aspect mécanique qui est important aussi. Donc, même dans une période où on fait plus de tempo, de threshold, d'entraînement contrôlé, à l'occasion de travailler à des intensités plus élevées pour garder une efficacité mécanique élevée, un temps de contact au sol court, mm-hmm. c'est important. D'où l'idée de dire, même si on a un objectif principal dans une période, on développe quand même quelques qualités différentes et vice-versa. Développer une efficacité mécanique à vitesse plus élevée qu'allure marathon pour un marathonien, ça peut l'aider sur le plan mécanique.
Oui, c'est intéressant parce que si je repense à d'autres méthodologies d'entraînement, par exemple, ce qu'on fait avec le ski de fond, ça ressemble beaucoup au pyramidal vers polarisé, mais nous, mettons, Louis va le penser plus par bloc, c'est-à-dire qu'il va faire, mettons, on faisait des blocs de 8 semaines, mais on avait, mettons, si on le met sur 30 semaines, par exemple. On peut faire pyramidal 4 semaines, polarisé 4 semaines, pyramidal 4 semaines. Fait que tu peux quand même pas autant juste faire un long bloc, puis ensuite un autre long bloc, tu peux quand même mélanger un petit peu. Toi, en natation, c'est-tu quelque chose qui était plus ou moins appliqué? Comment ça fonctionnait?
Pas du tout. C'était quelque chose qui était aucunement appliqué. La seule chose qu'on faisait, c'est qu'au début de l'année, on faisait du général. Mais aussitôt qu'on tombait après le camp d'entraînement initial, là, on tombait dans des semaines qui se ressemblaient à toutes les semaines.
Est-ce que tu penses qu'au niveau mondial, les meilleurs Canadiens, les médaillés olympiques présentement, sont encore sur cette philosophie-là ou ils ont des différentes approches?
Je pense qu'il y en a de plus en plus qui ont changé, mais j'ai l'impression qu'il y a encore des restants de vieille mentalité. Là. Il y a encore des restants de vieille école. Mais je sais que Bob Bowman puis son programme en Arizona, ils sont là-dessus. Là. Ils sont sur des séquences comme ça. Je sais pas, je pourrais pas dire exactement qu'est-ce qu'ils font, mais je sais que Léon Marchand est beaucoup plus périodisé que moi, je l'étais. Là.
Toi, Félix, as-tu connaissance au niveau mondial un peu comment ça se passe en athlétisme? Mettons, si on prend des coureurs comme Thomas sur 5000 mètres, par exemple, là, as-tu une idée de Ingebrigtsen, il fait quoi ou ben non, d'autres coureurs?
Oui, tout à fait. Puis j'aime dire que à ma façon, je veux être un étudiant du sport dans lequel je suis entraîneur. C'est-à-dire qu'il faut être fan, il faut être passionné. Il faut chercher à vouloir savoir c'est quoi les bonnes pratiques pour être un bon entraîneur. Puis c'est quelque chose que j'aime faire. Puis dans notre sport, particulièrement dans les épreuves de demi-fond, il y a plusieurs chemins qui mènent au succès. Si tu regardes la ligne de départ aux 1500 mètres aux Olympiques, tu as 15 coureurs, ben tu as pratiquement 15 programmes différents, à exception s'il y a deux ou trois athlètes qui ont le même entraîneur. Fait que ça, c'est intéressant. Puis ça amène aussi que c'est pas la même recette qui va fonctionner pour tout le monde. Il y a des profils, par exemple, de coureurs de 1500, très rapides, qui gagnent à avoir un programme qu'on appelle 800-1500. Et il y a des profils qui sont très aérobiques, qui répondent très bien à l'entraînement au seuil, comme Jacob, puis qui, eux, vont gagner à avoir un profil qu'on appelle 1500-5000, voire orienté sur beaucoup, beaucoup d'aérobie au seuil. Donc, il y a plus qu'une façon d'avoir du succès en athlétisme. Plus on va sur des épreuves qui sont à un ou deux extrêmes du spectre, donc par exemple le 100 mètres ou le marathon, il y a un peu moins de variabilité. Dans le sens, dans une certaine mesure, un programme de marathon, tu as des incontournables que tu dois faire, peu importe ta philosophie. Même chose au 100 mètres. Quand tu es dans l'entre-deux, sur 800, 1500, 5000, il y a plusieurs façons d'arriver au succès en fonction du profil de l'athlète, puis en fonction de la mentalité de l'entraîneur aussi, puis de ce travail d'équipe-là, coach-athlète.
Puis, mettons, que tu avais à catégoriser, par exemple, sur un 5000 mètres, c'est-tu plus un des quatre groupes qu'on vient de nommer? Mettons, la tendance mondiale, ta voix dans quel, mettons, selon ton expérience, tu verrais dans quel domaine?
Avec des nuances, je dirais que c'est pyramidal à polariser.
Justement, ils font des séances quand même assez intéressantes parce que moi, ma vision du tempo, c'est pas nécessairement ce qu'ils font à 100%. Par exemple, dans le groupe de pyramidal pur, première semaine, il y a du volume, il y a une charge d'entraînement qui est pas mal la même tout le temps, charge d'entraînement étant intensité fois volume. Fait que si peu importe le groupe où on est, la charge d'entraînement va demeurer la même. Ça peut être un petit peu aussi questionnable parce que normalement, quand on fait un petit peu plus de pyramidal, souvent le volume, des fois, est un petit peu plus élevé, mais selon pour les biens de l'étude, je pense qu'ils ont standardisé la charge totale d'entraînement et le volume en termes de minutes. Mais par exemple, je regarde, là, il y a deux intensités par semaine, 20 minutes de zone 1, puis l'intensité, c'est 55 minutes de tempo direct après. Il n'y a pas de division de 2 fois 3, 3 fois 3, 4 fois 3. C'est continu tempo pendant 55 minutes. C'est sûr que si on établit, c'est assez large, là, parce que si on établit entre le seuil aérobie et le seuil anaérobie, il y a quand même une grosse zone. Là, on peut être bas tempo, haut tempo, mais c'est quand même un 55 minutes de tempo. Tu vois, la semaine d'après, c'est un 50, 55 encore une fois, 40. Fait que, il n'y a pas beaucoup de division. C'est beaucoup dans les entraînements un peu plus intenses qui vont mettre un petit peu plus la gomme, tu sais, des 12 fois une minute, 12 fois deux minutes, des trucs comme ça. Ce qui est plus traditionnel, mais toi, quand tu prescris justement, on va dire un peu plus pyramidal en tempo, c'est-tu quelque chose que tu vas prescrire? Mettons 55 minutes de pace 30 là, ou quelque chose comme ça. Là.
Bon, c'est comme un 15 kilos, genre. On fait 15 kilos tempo. C'est-tu plus ça, toi, que tu fais?
C'est assez rare que je vais utiliser cette façon de faire-là. Moi, souvent, la zone, entre guillemets, qu'on appelle à tort ou à raison tempo ou seuil, je vais aimer faire référence à des allures demi-marathon, allures 30 km, souvent des répétitions entre 1500 mètres et 3 km, puis avoir une courte récupération d'une minute, une minute 30 entre, puis aller totaliser des volumes entre 8 et 15 km d'intervalle, dépendant du profil de l'athlète. Donc, on va quand même aller chercher plus ou moins 15 km comme le 55 minutes continu, mais avec des courtes récupérations d'une minute, une minute 30, puis probablement à des intensités un petit peu plus élevées, parce que si j'avais à prescrire cette séance-là de 55 minutes continu, ben probablement que je recommanderais plus d'aller à une allure marathon, voire même un petit peu moins vite, plutôt que d'aller à des allures demi-marathon ou 30 km comme je prescris lorsqu'on je veux travailler dans la zone tempo.
Qu'est-ce que ça vient faire les cours? Les courtes récupérations. Tu sais, mettons que je me dis 3 fois 3 kilos tempo, par exemple, ou mettons plus que ça. Mettons 3 fois 5 kilos tempo, là, que ça te prend 15 à 20 minutes de faire ton 5 kilos, puis que tu te mets un 2 minutes de jog entre les 3 fois 5. Qu'est-ce que ça vient faire vraiment au lieu de faire un 15 kilos, mettons?
Ben, mettons au niveau physiologique, puis tu pourras renchérir. C'est sûr que ta lactatémie va avoir le temps de redescendre. Si tu prends, mettons, 55 minutes d'effort continu à tempo, c'est sûr qu'il y a une dérive cardiaque qui vient avec. Fait que, mettons, si tu essaies d'être stable à 160 battements, ben, ça va pas tant être possible parce que juste la fatigue biomécanique, la fatigue. Ben, ça fait beaucoup descendre. Tu sais, moi, j'ai déjà vu dans les tests de lactate, là, des fréquences cardiaques, puis on allait au maximal. En une minute, la personne descendait ses fréquences de 50 à 60 battements. C'est gigantesque. Fait que, après ça, de remonter, c'est un petit peu plus lent. Ta lactatémie aussi a le temps de redescendre un peu. Vu que tu es en tempo, tu es en contrôle encore. Tu n'es pas à des lactatémies très élevées. Il y a une fatigue neuromusculaire aussi qui va être diminuée. Fait que, ça va diminuer aussi la fatigue totale après. C'est-à-dire que si tu fais du continu, ben, la fatigue totale, la charge d'entraînement accumulée, selon moi, comme il quantifie ici, va être plus élevée que si tu donnes des petits repos. Là. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça.
Non, je pense que c'est bon. Puis en complément d'information, j'insisterai sur la récupération de cette séance-là. Donc, comment tu vas poursuivre ta semaine d'entraînement? Si tu as des courts repos, ça va être un peu moins taxant sur le plan physique, musculaire, pour la suite. Puis, il y a plus de chances que tu sois à des vitesses un petit peu plus élevées mécaniquement de la façon que tu cours, sans atteindre un taux de lactate ou un niveau de fatigue plus élevé. Donc, mécaniquement, tu vas être un peu plus fluide, un peu plus efficace à courir à des allures, grosso modo, demi-marathon que de courir à une allure un peu plus lente que le marathon si tu fais ton 55 minutes continu. Donc, il y a un gain sur ton efficacité mécanique de courir un petit peu plus vite pour aller à des niveaux de lactate qui vont être les mêmes.
Puis si j'en reviens aux séances brutes, parce que là, je t'ai donné des exemples de séances brutes, tu sais, je sais que toi, dans ta philosophie, t'aimes ça aussi, ne pas dire, OK, cette séance-là, c'est du VO2 max ou de la zone 3, comme ils appellent, ou, en haut du seuil. Puis cette séance-là, c'est vraiment juste du tempo qu'on fait. Je sais que toi, tu aimes ça, mélanger un petit peu les deux. Tu peux-tu nous expliquer un petit peu cette philosophie-là, justement?
Oui, puis ça va dépendre du temps de l'année. Donc, le moment de l'année où je vais moins être porté à systématiquement mélanger les qualités physiques qu'on va travailler, c'est en début d'année. Donc, si on est loin des compétitions, de dire cette séance-là est dédiée uniquement, par exemple, à travailler au seuil, je vais être à l'aise avec ça. Plus on approche des compétitions, plus si je suis sur un modèle où on a seulement deux séances de qualité dans la semaine, mais moi, je veux travailler plus que deux choses dans ma semaine. Donc, c'est quoi le compromis que je fais? C'est de travailler deux qualités physiques dans une même séance. Donc là, ça me laisse quatre opportunités sur deux séances parce que les déterminants de la performance sont trop complexes pour se limiter à deux types de séances pour avoir du succès au 1500, 3000, 5000, où il y a plusieurs facteurs qui vont déterminer est-ce que tu vas être compétitif. Puis, règle générale, j'aime travailler sur des allures plus lente en début et plus vite à la fin, notamment pour créer cette capacité-là de finir fort ta compétition, puis notamment parce que si tu as un athlète qui récupère bien, il va être capable de bien faire sur des efforts courts, rapides et intenses après avoir fait des séances aérobie, tant qu'il y a assez de récupération entre les deux. Alors que l'inverse, si tu commences avec quelque chose de très intense, très court, ça peut le taxer suffisamment pour que faire du tempo ou du threshold après, il ne sera pas nécessairement efficace. Donc, du plus lent vers le plus vite, règle générale, ça passe mieux.
À quoi ça peut ressembler une séance comme ça? Une séance où est-ce que tu vas jouer avec les deux qualités?
Oui, donc une séance où, par exemple, on a un moment de l'année où la séance du mardi, on travaille à des allures demi-marathon, mais je veux commencer à inclure un petit peu de spécificité avant de faire des séances spécifiques d'ici quelques semaines. Donc, au lieu de faire 12 fois 1000 mètres comme on ferait en période où on ferait que du tempo, ben, je vais peut-être dire aujourd'hui on fait 8 fois 1000 mètres. Après, on prend 4 à 5 minutes de récupération. L'athlète, quand il finit son 8 fois 1000 mètres, il a une marge de manœuvre. Il est habitué d'en faire 3-4 de plus. On prend 4 à 5 minutes de récupération. Puis là, on travaille dans de l'anaérobie. On fait un 10 fois 200, par exemple, à un effort qui va représenter une allure 1500 en compétition. Donc là, on va avoir travaillé les deux filières sur une seule séance. Donc, j'ai pas besoin de sacrifier deux journées d'entraînement dans ma semaine, une seule. Tant que c'est un athlète qui a une capacité de prendre une charge de travail élevée, ça va bien passer. Si c'est un athlète en développement qui est jeune, que juste faire le 8 fois 1000 mètres, là, il a déjà atteint une cote d'effort élevée, ben là, je vais le brûler si j'ajoute 10 fois 200 après. Cet athlète-là, peut-être que lui, je ferais juste faire 5 ou 6 fois 1000 mètres au début. Donc, il faut adapter à qui on s'adresse, puis avoir un dosage qui fait que lorsqu'il termine son premier bloc, ben ça représente pas quelque chose de difficile pour lui ce qu'il vient de faire, parce qu'on en a fait 8 au lieu de 12 ou 6 au lieu de 9. Donc, s'adapter comme ça dans le dosage, puis pas avoir peur de donner un 4-5 minutes de récupération avant d'enchaîner la qualité suivante.
En tout cas, moi, c'est le genre de séance que moi-même, coureur amateur, j'adore. J'aime ça faire du long au début, puis quand j'arrive proche de l'événement, t'sais, avoir une base plus de, comme tu dis, tempo, puis finir fort sur des 400, des 200, c'est quand même satisfaisant comme séance. On dirait que tu as tout travaillé, puis tu as fini fort en plus, fait que c'est vraiment le fun. Ce qu'ils ne mentionnent pas dans l'étude, c'est, vu qu'ils ont trois zones très différentes, puis on a eu une petite réunion hier, on en a discuté à ton bureau, c'est, par exemple, le seuil, parce qu'on parle souvent du seuil anaérobie, c'est l'endroit où, bon, après ça, l'accumulation de lactate est plus ou moins surmontable, on va dire, puis que ça devient très difficile, VO2 max et plus. Le seuil aérobie, c'est comme le sweet spot, justement, où là, le système anaérobie commence à s'impliquer un petit peu, puis ça devient un petit peu plus difficile. Fait que c'est pas de l'allure marathon, c'est pas du jog à zone 1, c'est comme, moi j'aime ça appeler, parce que je fais des compétitions des fois dans cette zone-là, du pace 80, du pace 100, ça dit pas grand-chose à personne, mais j'ai eu un petit meeting avec Richard Chouinard tantôt, puis il était bien d'accord avec moi, il riait, du pace 100, du pace 80. Est-ce que toi, t'en inclus un petit peu de ça, justement, dans ton entraînement, pas du pace marathon, mais pas du jog, c'est un petit peu plus vite, là. Il appelait ça un peu du demi-train aussi dans le temps, là.
Ouais, il y a plusieurs terminologies qu'on peut utiliser. Des fois, c'est aussi simple que d'appeler ça un jog soutenu. Donc, t'es un petit peu plus vite que lors d'un jog à basse intensité. Puis, à l'occasion, dans la longue sortie, j'aime ça le placer. Ça enlève un peu de monotonie. Donc, si l'athlète va courir 20 ou 25 km en continu, dans la deuxième moitié, on va placer une dizaine de kilomètres dans cette zone-là, qu'on peut appeler à tort ou à raison zone 2 ou jog soutenu. On va un peu plus vite qu'un jog à basse intensité, mais on ne se rend pas encore dans une zone qu'on pourrait appeler seuil. Donc, on est moins vite que pace marathon, mais un peu plus vite qu'un jog à basse intensité. Ça peut être bien à l'occasion dans la longue sortie.
Je pense que l'erreur que les gens font peut-être, c'est souvent de trop jogger dans cette zone-là. Fait que, quand on parle d'un 80-20, comme on vient de dire, zone 1, ben, c'est réellement 80, mais mettons qu'on divise la zone 1 en deux zones, ben, probablement que tu as un 70% qui est vraiment facile. Puis peut-être que tu peux te permettre justement un 5-10% de seuil aérobie ou de pace 100 ou de petit, ou de demi-train, comme, peu importe comment on l'appelle. Toi, tu appelles ça comment?
J'appelle ça quand je jogue trop vite. Ouais, ça m'arrive souvent de faire ça. Là. J'en fais beaucoup du temps dans cette zone-là. Là.
Puis moi, juste pour mentionner, mettons, moi, je vais jogger à 5 du kilo, 4,45. Mon seuil aérobie ou mon pace 80 ou 100 va se situer au cours de 4 flats. Puis j'évaluais justement avec toi celui de Charles Philibert. Puis juste pour vous montrer la différence, tu sais, lui, c'était à 3,20 là, à peu près, là, son demi-train. Là. C'est, fait que c'est même pas son pace marathon à 3,20.
C'est mon pace 5 kilos là, que tu m'as pacé, là.
Fait que c'est quand même c'est très variable selon la personne qu'on a devant les yeux.
C'est ça. Puis tu sais, je peux rapidement servir l'exemple de en camp avant les Olympiques, on en a placé une dans une sortie de 21 km. Ben, les 10 premiers kilomètres étaient dans une zone 1. Donc pour Charles, ça peut être 4 minutes 15 du kilomètre, un jog facile à basse intensité. Puis le 10 km suivant était dans cette zone 2-là où j'avais demandé aux athlètes d'aller plus ou moins à 3,25, 3,20, 3,15 dans la deuxième moitié de leur sortie d'une vingtaine de kilomètres. Donc, zone 2, moitié de la longue sortie, mais tu gardes ça dans une zone où tu es contrôlé, puis quand tu termines, ce ne serait pas un problème de faire un autre 10 km de plus.
Exact. Puis là, dans les dernières 5 minutes, on a dit zone 2, mais ça correspondait à un système à 5 zones, ouais, pour ne pas vous le mélanger. Donc, les dernières 5 minutes, le zone 2 qu'on parlait, c'était système à 5 zones et non pas le tempo. Donc, n'allez pas faire 10 km de tempo dans vos longues si c'est ça que vous pensez qui a été dit. Quoique ça peut être bon, il n'y a pas de jugement. Donc, le demi-train ou le PS80 ou le PS100, c'est réglé. Donc, qu'est-ce qu'on faisait dans justement, on répartissait les zones d'effort comme ça ici, en pyramidale polarisée ou les deux autres groupes qu'on a mentionnés. Et les tests qu'on faisait maintenant, c'était à 8 semaines et à 16 semaines pour voir la progression. Ben, le premier test, c'est on avait un test de VO2 max assez traditionnel. Eux, c'était des étapes de 5 minutes qui augmentaient à 0,5. Ils commençaient à 14 km/h qui augmentaient de 0,5 km/h par 5 minutes. Et on arrêtait à 4 millimoles pour juste déterminer la vitesse à 2 et à 4 millimoles. Le 2 étant peut-être le seuil aérobie, le 4 étant le seuil anaérobie, façon très simple de qualifier les deux seuils selon la littérature. Et le deuxième test qu'on faisait, c'était le VO2 max. Donc, c'était une minute par palier jusqu'à l'épuisement. On augmentait de 0,5 km/h par minute. On commençait à 12 km/h, puis là, on allait vraiment chercher le maximum. Et là, on enregistrait justement la fréquence cardiaque, VO2 max, perception d'effort, etc. Donc, tous les paramètres étaient enregistrés pour les deux tests qui étaient faits dans la même journée avec, je crois, un 30 minutes de décalage entre les deux. Le premier test de lactatémie étant quand même assez mollo, là, c'était pas super difficile. Puis le troisième test, qui était 48 heures plus tard, c'était un 5 km TT avec 30 minutes de échauffement en zone 1, donc vraiment facile, éducatif, et 5 km TT à bloc où on mesurait perception d'effort, heart rate, lactatémie aussi, maximale, etc. Et là, justement, qu'est-ce qu'on a noté par rapport à ça? C'est que dans les résultats, après 8 et après 16 semaines, parce qu'on a fait les tests après 8 et 13 semaines, c'est qu'il y avait une grande amélioration dans les quatre groupes d'entraînement. Évidemment, ça serait plate de pas observer aucune amélioration. Et que c'était significatif pour tous les groupes au niveau du bloc de lactatémie à 2, à 4 millimoles et le VO2 max. Mais que la plus grande amélioration avait été observée justement chez le troisième groupe. Donc, on parle de 8 semaines de pyramidale, transitionner à 8 semaines de polarisé. Donc, un peu plus de tempo pendant 8 semaines, un peu plus d'intensité haute élevée pendant 8 semaines. Et on parle là d'une amélioration. Puis là, peut-être que ça vous sonnera comme pas grand-chose, mais pour un athlète de haut niveau, on parle d'un Charles Philibert Turbuteau sur un 1500, c'est énorme. 3% de VO2 max, 1,7% d'amélioration de la lactatémie à 2 millimoles. Même chose à 4 millimoles et 1,5% d'amélioration sur un 5 km TT. 1,5%, ça paraît pas grand-chose, mais c'était la plus grande amélioration qu'on avait, les autres étant 1% et moins ou 0,5%. Donc, le groupe qui ressortait le plus par rapport à ça, c'était pyramidal vert polarisé. Donc, plus de tempo au début vers quelque chose d'un petit peu plus VO2 max intense à la fin. Donc, ça fait du sens pour toi?
Ouais, ça fait beaucoup de sens. Puis, je rebondirais avec le fait que l'exemple que les quatre programmes ont eu du succès, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, que lorsque tu as 15 coureurs sur une ligne de départ, il y a 15 façons différentes exact. De s'entraîner. Puis, il n'y a pas qu'une seule façon de s'améliorer, d'avoir du succès. Puis, ce que j'aime, c'est que ça confirme que les athlètes qui ont fait des séances polarisées, donc des séances intenses à VO2 max, ont maximisé leur succès. Bien, dans une certaine mesure, c'est normal, surtout si on prend le test de 5 km, parce que c'est spécifique à la tâche. Donc, si tu fais que du tempo contrôlé, puis que tu veux optimiser tes résultats sur un effort de 5 km où les déterminants de la performance sont majoritairement le VO2, ben tu t'es pas entraîné de façon spécifique. Donc, ça prend la base, la fondation d'aérobie que tu vas aller chercher avec ton entraînement pyramidal selon la littérature qu'on utilise, mais aussi ta spécificité, donc courir à vitesse 5 km et vitesse plus vite pour être bon dans cette tâche-là.
J'entends ce que tu dis, que les quatre programmes se sont améliorés, il y a beaucoup de façons de s'améliorer, mais moi, ce que ça me dit aussi, c'est que c'est pas parce que tu t'es amélioré que tu as fait la meilleure affaire que tu aurais pu faire. Quelqu'un qui court pas, qui se lève du divan puis qui se met à courir, va s'améliorer juste en courant, tu sais. Fait que d'être au courant que, OK, de remettre en question, en fait, ce que tu fais, parce que c'est sûr que n'importe quelle personne amateur qui n'est pas un athlète élite va s'améliorer juste en pratiquant le sport, tu sais. Mais les gens qui écoutent le coin du geek, surtout rendus à ce moment-là dans l'épisode, qui ont décortiqué toute l'étude au complet, c'est que ça les intéresse. Puis je trouve ça vraiment pertinent de voir que dans ces groupes-là, qui faisaient tous des trucs qui sont essentiellement des choses qu'on se fait dire qu'on doit faire, là, tu sais, le pyramidal ou le polarisé, c'est des choses qu'on a entendues. C'est comme il y a du monde qui bâtissent leur programme au complet sur ça. Ben, de savoir que là, il y a une des quatre solutions qui a eu des meilleurs rendements que les autres, c'est quand même intéressant aussi à noter, là. Puis ce qui m'amène aussi à la périodisation de l'entraînement, parce que là, c'est ça qu'on voit, dans le fond, c'est de commencer avec du pyramidal puis d'amener ça vers le polarisé. J'imagine qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute qui font la même chose semaine après semaine après semaine après semaine après semaine, d'objectif en objectif. Puis on en avait parlé quand on parlait un peu de la préparation physique, là, l'importance de la périodisation dans l'entraînement, même pour des athlètes élites, mais j'imagine aussi pour des athlètes amateurs. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter à ça, là.
Ben moi, je suis absolument d'accord avec toi. C'est sûr que tu ne vas pas optimiser tous les paramètres de la performance si tu répètes. Puis l'autre point que je suis absolument d'accord aussi, c'est que c'est pas parce qu'on fait quelque chose de bien qu'on ne peut pas le faire mieux aussi. Puis je pense que c'est la force de Félix, puis c'est la force des grands entraîneurs de se remettre en question jour après jour après jour. Et de pas c'est pas parce que cette année-là, ça a bien été qu'on va répéter juste la même chose, puis on va s'en tenir à ça. Ils sont toujours dans l'avancement, puis ton athlète qui a gagné une médaille d'or l'année passée, ben, il peut peut-être être meilleur encore. Donc, on ne va pas juste répéter pendant 4 ans ce qu'on a fait pour gagner cette médaille-là, parce que tout le monde évolue autour de toi, tout le monde devient meilleur, puis toi, tu peux être meilleur que ça. Tu sais, des 1%, ça paraît pas grand-chose, mais pour un athlète olympique, c'est énorme. Tu sais, des 1%, on veut essayer d'en grappiller avec des vestes de cool-down, avec de n'importe quoi, là, tu sais, des protocoles de chaleur, des protocoles d'altitude, mais tu sais, juste un bon programme, ça fait quand même, à la base, 99% du travail. Puis ça, je pense que... Ben, Félix, tu dois être sûrement d'accord avec moi.
Oui, oui, je suis d'accord. Puis plus on avance dans le niveau de performance d'un athlète, plus le fin détail va faire la différence. Donc, quelqu'un qui fait du sport de façon récréative, moindrement qui fait un programme bien planifié, il va s'améliorer. Mais peu importe son niveau, à un moment donné, il va se rapprocher de son plafond, son sommet de performance théorique. Puis quand on s'approche de ce sommet de performance-là, bien, chaque petit détail qu'on va optimiser, on va aller chercher un petit 1% qui, là, va faire la différence. Alors que quand tu commences, peu importe ton âge, ton niveau, fais à peu près n'importe quoi de moindrement sensé, puis tu vas progresser. Mais plus tu t'approches de ton potentiel maximum, plus il faut optimiser les petits détails. Puis si je prends l'exemple de la carrière de Charles-Philibert Thibouteau, de 2010 à 2016, pendant ces 6 années-là, en travaillant ensemble, il est grosso modo passé de 3 minutes 50 à 3 minutes 34 sur 1500 mètres. 3 minutes 34, tu arrives dans les meilleurs au monde. 6 ans de travail, tu as coupé plusieurs secondes. Mais après, de 2016 à 2024, ben, ça nous a pris 8 ans pour couper 2 autres secondes. Donc, parce qu'il était déjà dans les meilleurs au monde. Puis, les petits détails qu'on a réussi à ajuster, à trouver une formule qui fonctionne bien pour rien, pour lui, on a grappillé des petites centièmes ici et là pour arriver à courir à 3 minutes 32.
Est-ce que rendu, mettons, quand tu as fait le gros du travail, justement, de ces, mettons, ces 15-20 secondes-là que tu as retranché, est-ce que tu remets en doute complètement l'entraînement? Est-ce que tu veux trouver une façon, pas magique, mais assez d'aller chercher d'autres choses qui vont l'améliorer? Parce que après ça, tu sais, passer de 3:34 à 3:30, des fois, c'est juste une bonne journée, une mauvaise journée. Fait que comment, mettons, est-ce que c'est là de voir ce que les autres font à travers les camps, à travers les compétitions, c'est ça qui vient t'aider, en fait, qui vient te donner des outils peu, dans l'entraînement?
Oui, c'est sûr que les bonnes pratiques viennent aider. Donc, s'il y a 10 gars qui sont meilleurs que lui sur la planète, qu'est-ce qu'ils font que nous, on ne fait pas? Puis des fois, en te posant la question, tu te rends compte que ils font à peu près rien de différent de ce que tu fais. C'est peut-être juste d'accumuler de la constance à ce niveau-là sans te blesser, puis plusieurs années d'entraînement qui vont faire la différence. Mais à l'inverse, des fois, tu vois, OK, il y a une tendance où il y en a beaucoup qui font du double seuil. OK, pourquoi on l'essayerait? Pourquoi on ne l'essayerait pas? C'est quoi le risque? C'est quoi le bénéfice? On pèse les pour et les contre, puis on prend une décision ensemble. OK, pour passer au prochain niveau, on l'essaye, puis on voit comment tu réagis à ça.
C'était fascinant. Une superbe étude. Je suis sûr que ça va vraiment intéresser les. Honnêtement, je pense que ces podcasts-là, comme celui qu'on vient de faire là, celui qu'on a fait hier, je pense vraiment que ça va rejoindre beaucoup de monde. Là. C'est super. Fait que merci pour la préparation. Merci Félix pour ton temps aujourd'hui.
Puis, plaisir.
On vous souhaite un bon entraînement aujourd'hui. C'est plein d'Abraham. Au plaisir de se croiser.